Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, votre recette, merci. Avec les chips.
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
Je ne m'étais jamais projeté au Masters parce que c'était vraiment pas un objectif de début d'année. Je pensais pas que je pourrais y être. C'est hyper prestigieux, tu te dis, ouais, je suis avec. On est 8, je suis bien entouré.
Il a eu peur en rentrant sur le court contre Federer au début de match, au Masters à Shanghai.
Ça demande voilà, vachement de cran quand même d'arriver sur le terrain et de jouer à fond et de jouer sa carte quand tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui pense que tu as une chance de te qualifier, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais quand il y a la sortie des poules, il n'y en a pas un qui pense que tu vas te qualifier. Donc t'as envie de leur dire, mais je vais vous montrer, moi, si je peux pas me qualifier, bande de naze.
Salut, c'est Max, et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Pour ce 18e épisode, Gilles Simon est avec nous à l'occasion de la sortie de son livre « Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu ». Son but à travers cet ouvrage est de comprendre pourquoi les Français n'arrivent pas à gagner en Grand Chelem. Pour ce faire, il déconstruit et analyse le système de formation français et tente d'apporter quelques clés grâce à ses 18 années de circuit. Dans cet entretien, Gilles nous fait également vivre ses victoires contre Federer, tout en nous racontant avec précision, détail et humour qui est Roger et comment il peut être perçu de l'intérieur par ses collègues de travail. On a également abordé la notion de peur, qui est la même finalement pour un joueur de club ou pour un joueur sur le circuit ATP. Gilles nous permet par ailleurs de comprendre ce que les Français ressentent en jouant à Roland-Garros. On parlera aussi de son plus gros frisson sur un court de tennis en termes d'ambiance et de ses anecdotes en mode inside sur Roger, Rafa et Djoko, qu'il connaît très bien en dehors du court, pour avoir été pendant 6 ans ensemble au conseil des joueurs de l'ATP. Pensez à vous abonner pour recevoir l'épisode que l'on sort chaque mardi et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend 5 secondes et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Place à l'épisode avec Gilles Simon. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Gilou, j'espère que tu es bien installé déjà.
Je suis bien installé.
Impeccable.
Je bouge pas.
Très bien. Donc tu es né le 27 décembre 84 à Nice. Tu mesures 1,83 pour 70 kilos. Tu as commencé le tennis à 6 ans.
C'est faux.
Ah, tu as grossi.
Non, mais j'ai jamais fait 1,83 m. C'est un truc qui a toujours été écrit. Je leur ai dit 50 fois, je n'ai jamais fait 1,83 m.
Tu fais
1,80 m.
80.
Mais ils m'ont mis 1,83 m depuis toujours.
Ok. Donc, tu as commencé le tennis à 6 ans à l'US Fontenay en région parisienne. Jeune, tu as appris le piano, puis passé un bac S en parallèle de ta formation à l'INSEP, l'Institut National du Sport. Étant jeune, ton petit gabarit t'a fait développer un profond sens tactique. T'es droitier, revers à deux mains. Les joueurs qui t'inspiraient étaient Michael Chang et Cédric Pioline, a priori. Tu leur trouvais quoi particulièrement à ces deux gars-là?
Cédric, c'était le joueur français numéro un chez nous. Donc c'est celui qu'on regardait le plus. Et je trouvais qu'il avait un jeu et un peu un détachement dans la manière de jouer. En tout cas, dans ce qu'il dégageait, qui était hyper intéressant. Et Michael Chang, c'était vraiment plus petit parce que justement, il était petit aussi, petit gabarit et que tu te raccroches à ce genre de personnes-là quand toi-même, tu n'as pas forcément le gabarit pour t'imposer.
Yes. La Fédé ne t'a pas alloué de bourse, mais tu reconnaissais ne pas avoir été assez bon chez les juniors. En revanche, ils t'ont accordé un entraîneur à tes 19 ans, Thierry Tulane, avec lequel tu as eu une collaboration très fructueuse de 6 saisons et 10 titres remportés ensemble. Tu es joueur de tennis pro depuis 2002. Aujourd'hui, tu es le 4e Français le plus titré avec 14 trophées soulevés, derrière Yannick, 23, Joe, 18, et tu talonnes Richard qui est à 15. 6e mondial à ton meilleur en 2009, 14 saisons dans le top 100, dont 6 où tu as fini top 20. Tu as fait demi au Master de fin d'année en 2008 en perdant seulement 7-5 au 3e contre ce satané Djoko. année que tu as terminé sur les chapeaux de roue, en étant monstrueux à Madrid, où tu bats Rafa, numéro un mondial à ce moment-là, 8-6 au tie-break du troisième, avec une balle de match sur Okai, partie que tu qualifieras avec le plus grand match de ta carrière. Dans ce tournoi, la presse espagnole t'avait surnommé El Superviviente, suite aux 5 balles de match sauvées contre Igor Andreev au premier tour, ainsi que d'autres balles de match sauvées contre Gine Prio au deuxième, et donc avoir battu Rafa 3-6, 7-5, 7-6, alors qu'il restait sur 70 victoires après avoir gagné le premier set. Tu as aussi battu Roger 2 fois d'affilée cette année-là au Master du Canada, puis en match de poule du Master de fin d'année. Tu termines l'année 2008 numéro 1 français. Tes meilleurs résultats en Grand Chelem sont 2 quarts à l'Open d'Australie 2009 et WIM en 2015, et 2 finales en Master 1000 à Madrid et Shanghai. Tu as battu 19 joueurs qui ont atteint le top 3 mondial. Tu as remporté la Coupe Davis en 2017 avec Yannick Noah comme capitaine. Tu fais partie de la bande rebaptisée les Nouveaux Mousquetaires avec Joe Tsonga, Richard Gasquet égale mon fils. Pour rappel, les mousquetaires historiques sont René Lacoste. Petit quiz, est-ce que tu te souviens du... Bon, logiquement, oui, le surnom de René Lacoste.
Crocodile.
Bravo. Jean Borotra, tu te souviens de son surnom aussi ou pas?
Ah, les surnoms, non, je ne vais pas tous les avoir.
Jean Borotra, c'était le Basque bondissant. Henri Cochet, le magicien.
Le Basque bondissant.
Et Jacques Brugnon, alias Toto, paix à leurs âmes à tous les quatre. Tu déclarais en 2013 dans l'équipe que si tu devais avoir une satisfaction, ça serait d'être le dernier joueur de 70 kilos à avoir été dans le top 10. Bon, depuis, il y a eu David Goffin, 7e en 2017. Et donc, le poids plume Diego Schwartzmann de 64 kilos pour 1m70, qui est actuellement 8e. Tu vis à Neuchâtel en Suisse, mais est-ce que c'est toujours le cas ou tu as déménagé?
Non, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que je suis revenu à Paris.
D'accord. Donc, tu es revenu à Paris avec ta femme Karine. Vous êtes papa de 2 enfants. L'aîné Timothée est d'ailleurs né pendant l'US Open 2010. Est-ce que tu as pu rentrer ou tu as dû vivre cet heureux événement de loin?
Non, j'ai vécu de loin. Je suis rentré, il avait 3 jours déjà, ou 4 jours même.
Okay. Patrick Mouratoglou considère que tu es le meilleur stratège du circuit. Tu es d'ailleurs surnommé le professeur, ou plus simplement prof. Tu as joué 13 matchs en Grand Chelem qui ont dépassé les 4 heures de jeu. On peut également t'appeler le marathonien. Aujourd'hui, tu sors un livre, Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Gilles? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à préciser?
Non, quelques petites erreurs par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, c'était très bien.
Ok. Donc, pour commencer, sur une échelle de 1 à 10, à quel point le tennis rend fou?
Wow, facilement 8. Il rend fou tout le monde, il rend fou à tous les âges. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je suis dans un club, à chaque fois que je regarde des gens jouer, je vois les gens s'énerver. Je dis rend fou, ça ne les rend pas forcément complètement fou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport très énervant à tous les âges et à tous les niveaux.
Et est-ce que tu penses que quand tu étais jeune, le tennis te rendait beaucoup plus fou? Avec la maturité et l'expérience, tu arrives un petit peu à relativiser le travail mental. Est-ce que tu es toujours à 8 sur 10 ou tu as réussi à apprivoiser un petit peu cet aspect?
Non, toujours, parce qu'il nous amène toujours dans des zones. C'est une confrontation, donc finalement, on joue face à des joueurs de son niveau. Donc, peu importe l'évolution qu'on a, on va se retrouver toujours confronté à sa limite. On va toujours avoir en face de soi quelqu'un de son niveau qui justement nous teste nos limites, nous montre nos faiblesses, cet écart qu'on peut ressentir entre ces moments où on se sent bon et on se dit « Ah ouais, là, je suis bon, tac !» Et puis tout d'un coup, bam, un jeu après ou 2 jeux après, il n'y a plus rien qui va et on se dit « Ah non, mais là, c'est un sport de con !» Et donc voilà, c'est ce truc-là, forcément, nous, on le gère mieux parce qu'on a réussi à réduire l'écart, on est professionnel, entre ces bons moments et les mauvais moments. Mais le feeling de base, il est le même. Il est là depuis le début et il est là à la fin.
Yes. On a eu Joe en invité sur le podcast qui nous disait que quand vous étiez au CNE, il vous arrivait d'aller en haut du central en vous imaginant faire des passings en bout de course avec la foule qui se lève. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là?
Ouais, bah c'est aussi ce qu'on te vend quand tu es jeune, justement. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est quand tu as plein d'images en tête. Et donc, c'est comme ça que tu vois. Donc, quand tu es à Roland, que tu dors au CNE, bah, le stade, un stade quand c'est vide, c'est triste. Hein. Donc, on n'avait pas grand chose à faire. On était là, on avait fini de dîner, il était 19h. Tu te mettais assis, tu vois, en haut du central. Ouais, c'était marrant, c'était des bons souvenirs.
Ça te fait quoi de repenser à ces jeunes années un peu insouciantes?
Elles n'étaient pas insouciantes. En tout cas, pas pour moi. J'ai envie de dire que quelque part, c'est plus insouciant une fois que tu as réussi et que tu sais que tout va bien que quand tu es sur le chemin et que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Parce que moi, je ne fais pas partie des joueurs qui ont tout réussi tout de suite en jeune, etc. Tu l'as dit dans la présentation. En junior, j'ai pas gagné un match. J'ai eu une wildcard pour jouer Roland-Garros en junior. J'ai fait premier tour. Donc, t'es pas dans les temps de passage ou dans les points de passage hyper rassurants. Donc, j'étais pas forcément insouciant. T'as le côté forcément, t'es jeune, tu progresses, etc. T'es à Roland. Voilà, mais bon, moi, Roland, j'étais pris en probation au début. Hein, à Roland, c'est la fameuse période de probation. On va voir comment tu t'entraînes. On va voir comment ça se passe. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que la fédération m'a toujours aidé parce que j'ai toujours été à la fédération et j'ai toujours, à l'intérieur de la fédération, eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont fait en sorte que je puisse continuer à m'entraîner et à bénéficier du système fédéral qui était beaucoup plus présent que maintenant à cette époque-là. Mais d'un autre côté, j'étais le dernier à rester. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ma place, elle était… s'il y en avait un qui sautait, c'était moi, quoi. Okay. Donc, j'avais pas non plus la confiance de tout le monde et du système non plus. Mais voilà, c'est juste pour dire, j'avais pas nécessairement cette insouciance-là. J'avais très envie, mais ça s'est débloqué un peu plus tard. Ça s'est débloqué vite ensuite, mais tard pour moi. Et donc voilà, malheureusement, j'étais pas champion de France tous les ans depuis les 10 dernières années.
Tu m'as dit, on va suivre une trame, hein, évidemment, dans l'évolution de ta carrière. Mais très rapidement, je rebondis, tu m'as dit, l'insouciance est plus venue quand j'avais compris que c'était bon, que j'avais réussi, entre guillemets, que j'étais arrivé. À quel moment tu t'es dit ça dans ta carrière?
En fait, on se dit jamais qu'on est arrivé parce qu'on veut toujours aller plus haut. À 18 ans, je suis à l'INSEP, je passe mon bac et Louis Borfia me laisse faire une année de plus à l'INSEP parce que je suis pas assez fort pour rentrer normalement à 19 ans. Enfin, une fois qu'on a fini les juniors, on passait au centre national d'entraînement. Moi, je suis pas assez fort pour aller au centre national d'entraînement et j'ai la chance d'avoir Luigi qui dit non, mais on va le garder une année de plus à l'INSEP. Ce qui s'est pas fait souvent, hein, ce que je crois qu'il s'était fait pour un seul autre joueur, ça devait être Julien Beneteau, je crois. Mais sinon, normalement, en fait, soit tu avais le niveau, tu enchaînais à Roland-Garros, soit tu l'avais pas, tu rentrais chez toi. Donc, c'est vraiment une fleur et une faveur. C'est pas pour autant que la fédération m'a fait confiance. Tu vois, c'est pour ça que ça veut rien dire, la fédération. C'est qu'à l'intérieur, il y a des personnes. Et il se trouve que à Roland, on disait non, on va pas le prendre, il est pas assez fort. Et Olivier a dit, oui, mais moi, j'ai pas envie qu'on le renvoie chez lui. Chez moi, ça aurait été beaucoup plus dur de réussir et donc j'ai fait une année de plus. Ça, ce sont des choix qui sont très importants, tu t'en rends compte après, mais toi tu le ressens en tant que joueur, tu ressens que t'es pas au niveau pour aller là, qu'on te fait une chance de rester ici. L'année d'après tu rentres à Roland-Garros mais on n'est toujours pas convaincu, donc on te dit tu vas rester t'entraîner avec nous cet hiver et on va voir comment ça se passe. Tu vois, tu sens pas la confiance totale non plus. Et donc forcément c'est pas rassurant non plus pour moi. Et puis il se trouve que après cette année-là, la première année où je suis à Roland-Garros, ça se débloque, je progresse très vite, je gagne 1000 places au classement en une année. Je crois que en point de passage sur Roland-Garros, une année je suis 1350, l'année d'après je suis 300, l'année d'après je suis 150, l'année d'après je suis 50. Tu vois, sur ce laps de temps, donc en 3 ans, je fais 1350, 50. Et donc là, quand tu sens que ça s'enchaîne un peu plus, forcément, ta confiance, elle remonte. Tu dis, là, j'avance, je suis là, je prends des places au classement tout le temps. Je suis un joueur qui a passé 6 ans en futur, mais une seule année en challenger. Normalement, c'est l'inverse. La plupart traversent les futurs. Et en challenger, tu frottes un peu. Moi, j'ai fait qu'un an de challenger. À ce moment-là, c'est allé vite pour moi. Et donc là, je te dirais que tu as peut-être un peu plus d'insouciance parce que tu te sens simplement plus en confiance. Tu te dis pas je suis arrivé, mais tu te dis je vais y arriver. Je sais pas où, mais tu sens que tu vas y arriver, que tu joues des joueurs de plus en plus forts, mais qu'à chaque fois ça te fait pas si peur, que le niveau, tu te dis mais je sens que j'aurai ce niveau-là et que je vais y arriver, donc ça va mieux, quoi.
Mentalement, après quoi tu t'es accroché pour tenir autant de temps au futur? Et comment t'expliques avoir autant frotté, comme tu le dis?
Bah, j'avais pas vraiment le choix. Comme j'avais pas le niveau non plus pour jouer en junior, quand on était à l'INSEP, tu as les joueurs qui jouent les juniors parce qu'ils jouent les gradins, les grands tournois, les tournois du Grand Chelem, etc. Et bah, si tu les joues pas, moi je suis en classement français, j'étais à 0, moins 2, donc je t'ai dit moins 2 à 18 ans. Donc tu joues des tournois français de base, et puis bah, tu commences à jouer les qualifs de futur. Futurs qui sont à côté, quand tu es à l'INSEP, tous ceux qui étaient là, plaisir, Pochroll, machin, tu commences à partir parce que bah, y a que ça à faire. Soit tu joues les juniors, soit tu joues en tournoi. Donc moi, c'est pour ça que pour moi, ça a commencé un peu plus tôt que les autres, dès 16 ans, parce que j'avais pas le niveau de toute façon pour jouer. La fédération envoyait les meilleurs simplement jouer les tournées comme l'Orange Bowl, tout ça, etc. Moi, j'ai fait une fois l'Orange Bowl, la première fois quand j'avais peut-être en cadet encore, mais vraiment en junior, j'en ai pas fait. En junior, j'étais trop loin des meilleurs.
C'était qui les cadors à l'Orange Bowl à l'époque?
Tu vois, dans mon année, je sais même pas qui a gagné dans ces tournois-là. Parce que j'y étais pas. Moi, à l'INSEP, les joueurs qui étaient plus forts, on avait Clément Morel qui avait gagné l'Australian Open en junior, Laurent Recoudère qui avait fait finale contre Richard Gasquet qui lui jouait avec 2 ans d'avance déjà chez nous. Et voilà, c'était plus fort que moi, quoi. Ils étaient bien plus haut classement. Et il y avait déjà des plus jeunes. Donc j'ai parlé de Richard. Bon, Richard c'était une exception parce qu'il était très 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 en avance. Mais Joe, qui a un an de moins, qui est de 85, qui était déjà beaucoup plus fort que moi. Gaël, qui était avec Jocelyn, voilà, ils avaient une très forte génération, Julien Gély, Pater Mamata, tout ça, des joueurs de 86, où je crois que j'étais zéro, ils étaient zéro au classement français, déjà avec 2 ans de moins. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est pour ça que je dis ça. J'étais pas dans l'insouciance de dire, bon, bah, tout va bien, je vais y arriver, quand tu vois que des joueurs plus jeunes, même s'ils étaient déjà 2 fois plus costauds que moi, étaient déjà beaucoup plus forts.
On a un peu sauté cette question, mais juste pour revenir à la base des bases, comment tu as découvert le tennis et qui t'a mis la première raquette entre les mains?
Bah, mes parents m'ont inscrit dans différents sports. J'étais petit, puis j'ai fait beaucoup de choses et le tennis me plaisait plus. Je ne jouais pas particulièrement au tennis, donc il n'y avait pas de volonté de pousser dans un sport ou dans un registre plus qu'un autre. Plus d'éveiller à différentes choses. Et il se trouve que voilà, en tennis, ça se passait bien et j'aimais beaucoup ça et je passais beaucoup d'heures sur le terrain.
Et à quel âge tu te souviens avoir commencé à rêver un peu secrètement d'être joueur de tennis professionnel?
Très tôt, hein. Tout de suite. En fait, okay. Très vite, quand tu sens que tu joues bien, tu es fort, tu es rapidement dans le meilleur joueur de ton club. Et puis moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, je me rappelle d'aussi loin que je me souvienne, ouais, en primaire, on me demandait, je disais, je veux être joueur de tennis. Et la maîtresse disait, mais non, mais c'est pas un métier. Tu sais, mais moi, je veux être joueur de tennis quand même. C'était ce que j'avais envie de faire.
Et quand tu jouais au mur, tu prenais quel joueur?
Pour le coup, j'en prenais pas. Je jouais, je crois que je jouais tout le temps. J'aimais pas m'entraîner parce que, bah, comme tous les enfants, un peu, tu vois, l'entraînement, dès que tu dois faire de la technique, du machin, bon, là, tu fatigues très vite. Mais par contre, je pouvais jouer toute la journée. C'est la journée au club, jouer au mur, jouer au mini tennis, jouer là.
Mais tu choisissais pas une star en disant je suis Stéphane Edberg et je suis en finale de l'Open d'Australie?
Non, parce que c'est ce que je dis, j'ai jamais eu d'idole. J'avais pas d'idole. Donc c'est pour ça, quand j'avais un Michael Chang que j'aimais beaucoup, c'était plus un repère, tu vois, que vraiment une idole. J'étais jamais, j'étais pas là à demander des autographes à tout le monde, à courir, pas du tout. Okay. Je jouais parce que j'adorais jouer. Je regardais très peu, je connaissais pas les joueurs. Je regardais très peu. Puis, faut remettre aussi à l'époque, t'avais du tennis, c'était Roland et la Coupe Davis, hein.
Ouais.
T'as du tennis, t'en voyais pas beaucoup, quoi. Voilà, il y avait pas Internet, il y avait rien, quoi. Donc, Roland, bah, t'allais à l'école, et Bercy où j'y allais. J'en voyais très peu et je regardais pas.
Est-ce que tu peux nous faire ton évolution de non classé à numéro 6 français? Numéro 6 mondial.
Au classement?
Pardon. Ouais. Au classement de non classé jusqu'à numéroté, du coup. Tu t'en souviens?
Alors, bah, non classé, je crois que j'étais 32, 15-4, 15-2, 5-6, 4-6, 2-6, 0, moins 2. J'ai dû faire un moins 4 intermédiaire, moins 15 en fin d'année, moins 30. Je crois que j'ai fait tous les classements à ce moment-là. Donc 2-6-0, moins 2, moins 15, moins 30. Et là, je suis allé plus vite. En français, j'ai dû faire moins 30, 27, 11, 3. Un truc comme ça.
Wow.
Au classement français.
Ouais.
Ouais, parce que si à un moment j'ai fait tous les classements avant, il y a un moment il faut que ça s'accélère. Ouais, donc c'est ça, 27-11-3. Je devais être troisième français quand j'ai dû finir la première année dans les 50 premiers. Alors, j'ai dû finir, je ne sais pas, 30 quelque chose. Et après, j'ai dû finir 6. Enfin, 7. J'ai dû finir 7. J'étais 6 l'année d'après. J'ai fini 7e, je crois. 7.
Et comment
parce que Joe est fini devant moi en 2008.
Salaud.
Comment c'est Joe qui a fini. Non, mais c'est vrai, c'est Joe qui a fini 6 en 2006 parce qu'il me passe. Enfin, on se repasse devant le truc. Il me passe devant sur son dernier match du Masters, je crois, où il bat Djokovic. Match où il était enfin, il n'était pas qualifié de jour parce qu'il avait perdu ses deux matchs, mais il avait battu Novak sur le dernier match de poule.
Ouais.
Et donc, il a gagné des points, il avait fini devant moi.
Et comment t'expliques avoir eu autant de friction sur ta progression au classement français, alors que derrière, chez les pros, finalement, t'as explosé, quoi?
Je crois que c'est lié juste à mon évolution aussi physique. Moi, j'avais tellement de retard. Quand je suis rentré à l'INSEP, je faisais 1m50 et 40 kilos. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais un des travers, je trouvais, des jeunes, c'était d'être toujours en compétition, de regarder ce que les autres font, etc. Et en fait, pour moi, c'était un peu plus simple. J'ai jamais eu ce truc-là ou de jalousie envers les autres parce qu'ils avaient de meilleurs résultats. Parce qu'en fait, ils avaient tous des meilleurs résultats déjà pour commencer. Et puis, les meilleurs de tu vois, je les voyais par entre eux et lui, ah putain, comment ça se fait? Ouais, je me disais, mais moi, Joe, il est plus jeune que moi, il a déjà 4 classements d'avance. Enfin, tu vois, je me sentais pas en compétition. Tu vois, j'ai l'impression, finalement, de faire mon truc à côté. Et même dans mon histoire, quand Luigi dit, bah, tu restes une année de plus, bah, tu sens que c'est un truc à part, tu vois, où on dit, comme si, certaines personnes quand même avaient accepté que tu progresses pas aussi vite que d'autres parce que, et moi j'ai grandi entre 16 et 18 ans et puis tu t'étoffes un tout petit peu après, même si je suis pas un costaud, mais j'ai quand même pris, comme tu t'étoffes, parce que moi j'en faisais 60 des kilos, j'en fais 70, donc c'est 10 kilos de plus. Et donc il y a un moment, bah, t'as ton physique d'adulte, il y a des choses qui se passent dans ton jeu, tu vois, tu commences à avoir une première balle, tu commences à faire, enfin tu vois, pour moi je commence à pouvoir attaquer, à faire des points gagnants, ça commence à sortir plus vite de ta raquette, donc, et il se trouve que ça, bah, ça s'est passé à ce moment-là, là où normalement ça se passe un peu plus tôt pour tout le monde. C'est à mon avis ce qui explique le décalage. Je pense que c'était la vision de Widget, c'est-à-dire, mais attendez, on va attendre de voir comment c'est ce qu'il donne quand il est fini, tu vois, pour voir si justement ça décolle ou ça décolle pas. Et c'est aussi pour ça que pour certaines personnes qui n'ont pas décollé à 18 ans, quand tu as l'impression qu'ils ont déjà leur physique d'adulte depuis 3, 4, 5 ans et que ça ne progresse pas tant que ça, tu vois, tu es plus enclin de dire, bon, bah non, mais là, on atteint une limite.
Ouais. Ce match de Luigi Borfiga. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP?
Mon premier point ATP, oui. Mon premier point ATP, c'est à Nevers. Donc, mon 8000e futur de 8000e qualif de futur depuis le début. À Nevers, donc ça doit être cette année-là, cette année d'INSEP, où je ne suis donc plus junior. Donc là, pour le coup, forcément, il n'y a plus que des futurs à jouer. Et je pars tout seul parce qu'en fait, c'est un peu le truc qui était étonnant à l'INSEP, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines tout seul. À un âge où normalement, à l'INSEP, t'as pas de jeunes qui partent seuls parce qu'ils sont forcément accompagnés. Quand ils partent, c'est des tournées, ils sont mineurs, etc., etc. Moi, je me débrouillais déjà tout seul. Je pouvais déjà aller au fin fond de la Roumanie tout seul parce que, à un moment, c'est presque pas prévu que tu sois encore là. Donc, tu as un certain nombre d'entraîneurs qui sont là pendant cette tournée-là. Donc, c'était à Nevers, je crois que c'est au mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. Ça doit être pendant justement cette tournée d'Orange Bowl, tout ça. Tu as un entraîneur qui parle avec le mec de l'Orange Bowl, un autre entraîneur qui s'occupe des plus jeunes. Et puis toi, tu es tout seul. On va pas te détacher un entraîneur pour partir. À l'INSEP, tu avais 3 entraîneurs pour 10 ou 12 joueurs à chaque fois. Okay. Donc, je partais et j'allais jouer mes qualifs de futur. Et puis, sur ce tournoi-là, ouais, j'avais réussi à me qualifier, passer un tour. Donc j'ai gagné mon premier point ATP et j'ai gagné mon deuxième point ATP quasiment un an plus tard. Wow. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout fait un déclencheur, un truc. Le deuxième point ATP, je l'ai gagné. C'est pour ça que je dis, j'avais un point ATP que j'ai dû prendre. Donc je me rappelle plus, mais c'est septembre-octobre, je crois, ce futur de Nevers. Octobre. Bon bref, c'est la fin d'année. Et en fait, j'ai toujours un point ATP à Roland. C'est pour ça que j'étais pris Roland en point de passage. Et il y avait que 1300 et quelques joueurs, 1350 joueurs dans le classement. Donc, j'avais un point ATP. Et j'avais pas pris un deuxième point dans toute cette période-là. Et puis, il m'avait pris à l'essai à Roland-Garros et j'ai gagné un deuxième point ATP cet été-là et j'ai gagné directement mon premier futur après. Tout d'un coup, d'accord, j'ai gagné un futur. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai fait tac, j'ai gagné un futur. Et puis là, Roland, il m'avait dit, bon, ben, il n'y a plus de période de probation. Bon, je fais pas très bien. Et voilà. Mais donc, ça a commencé à se débloquer là, cet été-là. Et l'année suivante, j'ai gagné, je ne sais plus, 4 ou 5 futurs. J'étais en finale 6, 7, 8 fois dans l'année.
Ouais.
J'étais avec, c'était une des petites erreurs de présentation. J'étais avec Alois Bost en premier entraîneur, pas avec Thierry Tuban, avec qui ça a très, très bien fonctionné pendant 2 ans et où j'ai gagné énormément de place au classement avant qu'il aille entraîner. Je crois que je suis monté jusqu'à la 160e place ou 150e place avec Alois avant qu'il aille entraîné à l'INSEP. Et là, j'ai eu Thierry Tulane, Jérôme Poitier, Rodolphe Gilbert à l'époque.
Okay. Alors, sache que Nevers, c'est chez moi, donc ça me fait super plaisir. Et
voilà.
Pas de hasard. Est-ce que tu as regardé, quand tu as eu ton premier point ATP, est-ce que tu as regardé si ton nom était dans le classement ATP de Tennis Mag à la fin, là, dans les noms en gras? Tu te souviens de ça ou pas?
Alors... Non, je n'ai même pas regardé, mais Tennis Mag, je crois que c'est le seul magazine. Il souhaitait l'anniversaire de tout le monde et pas le mien. Donc, je ne suis pas sûr que j'étais dans les registres de Tennis Mag pendant très longtemps. Mais non, en fait, en général, j'ai jamais vraiment regardé. J'étais, encore une fois, juste c'est un point ATP. Je voulais en gagner un depuis, je te dis, depuis 6 ans. Parce qu'en fait, même quand tu as 16 ans, alors c'est paradoxal, tu es à zéro. Tu sais que tu ne vas pas te qualifier en futur. Les joueurs français qui le jouent sont tous moins 15, moins 30. Tu vois, si tu en bats un, etc. Moi, c'était des premiers tours. Il y a 3 matchs de qualif, plus un match dans le tableau à gagner. Donc, ça me paraissait impossible. Mais finalement, c'était quand même en tête. Moi, je ne jouais pas les juniors. Donc, je jouais pour un point ATP depuis que j'avais 16 ans. Donc, il est arrivé à 18 ans et quelques. Donc, voilà, tu as l'impression que ça y est. 2 ans et demi que je voulais un point ATP.
Ouais.
Tu dis, si j'attends 2 ans et demi pour le prochain, ça va être long.
Entre l'équipe, entre l'ATP qui se plante de 3 cm sur ta taille et Tennis Mag qui ne te souhaite pas ton anniversaire, t'es le chat noir des.
À l'ATP, j'ai essayé de le faire changer 8 fois, mais ça n'a jamais marché. Ils m'ont dit, tu fais un 83, c'est comme ça. Je fais, bon, si vous voulez, c'est pas bien grave, on va survivre.
Est-ce que tu peux nous partager ta pire galère vécue sur le circuit secondaire, que ça soit. Au fin fond de la Roumanie, comme tu le disais, ou je sais pas, sur la qualité des cours, de l'ambiance, des raquettes perdues, peu importe, une galère un peu irréelle que tu as vécue.
Voilà. La Roumanie, ça avait été dur. J'avais fait deux. Et puis la Roumanie a énormément évolué en 20 ans, mais il faut se remettre, la Roumanie d'il y a 20 ans, c'était compliqué. J'ai quelques souvenirs là-bas en particulier qui étaient très durs de dormir à l'aéroport parce que tu as un vol qui arrivait à minuit et l'autre qui repartait à 7h du matin, que tu arrivais à Bucarest, que tu savais pas s'il fallait trouver un hôtel, etc. Je dormais à l'aéroport, j'avais peur qu'on me vole mes sacs, je dormais avec les sacs à, tu sais, accroché, là, tu passais ma jambe ou mon bras dans mon truc, parce que je me disais, si je dors, il y a un mec qui va venir me le prendre sur le banc de l'aéroport. Non, c'était compliqué. Je me rappelle aussi une fois en Roumanie, m'être explosé les deux poignets dans un ascenseur qui n'arrivait pas à niveau. Tu prenais un tout petit hôtel, l'ascenseur n'était pas arrivé à niveau, je sortais avec mes sacs en les tirant comme ça. Je trébuche, je mets les deux mains par terre comme ça, là, bam, clac, clac, les deux poignets, et derrière, galérer pour ramener mes sacs, essayer de les porter, j'arrivais plus à rien serrer et tout. Enfin, j'ai 2-3 trucs en Roumanie qui étaient durs, mais bon, à l'arrivée, finalement, c'est aussi peut-être pour ça que je suis très indépendant aujourd'hui, que j'ai pas peur de voyager ou que ce soit. Mais c'est vrai que je l'ai fait à un âge où d'autres histoires de vie le font, mais pas finalement, et certainement des joueurs d'autres pays l'ont fait aussi, mais c'était pas notre chemin, nous. Nous, pour le coup, on avait normalement en junior, tu jouais comme je te dis, les juniors, tu étais déjà dans le bel hôtel, tu jouais déjà un grand chelem, donc tu vois, c'est pas du tout le même truc.
Ouais. Ouais,
j'avais vécu un peu autre chose.
Au fond de toi, tu étais convaincu que c'était ta vocation d'être joueur de tennis professionnel, parce que quelque part, galérer autant à passer les qualifs, à t'accrocher, à voyager tout seul, tu t'accrochais après quoi finalement?
Ouais, mais c'était pas dur. J'en garde aucun souvenir. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort en particulier. Juste, j'adorais. Okay. Pour moi, c'était, enfin, Pour moi, c'était ça, il fallait le faire. Donc, tu vois, même quand je me rappelle de ces souvenirs-là, je me rappelle que c'était une galère, mais je m'en souviens dans ma tête comme d'un bon souvenir. C'est pas du tout un traumatisme. Tu vois, je me dis pas, là, on m'a abandonné, pas du tout. Moi, je me rappelle, je me suis dit, ah ouais, putain, c'était la galère et tout, mais ça me donne le sourire presque d'y repenser. Ouais. Donc, je le vois vraiment, je l'avais déjà en positif, ce truc-là.
Est-ce que tu te souviens du moment où tu as tapé la porte du top 100? Est-ce que tu as ressenti, à quel tournoi c'était?
Je suis rentré dans les 100 en Australie. J'avais, je crois que je commence l'année à peu près 130e, quelque chose comme ça, mais avec directement mon titre à Nouméa à défendre. Quel seul challenger que j'ai gagné. J'ai gagné deux fois, mais c'est le seul que j'ai gagné. Et finalement, je défends mon titre. Donc, je reste dans ces eaux-là et j'arrive à amener sur la forme derrière. Je me qualifie en Australie et je fais qualifier troisième tour en Australie. Donc, c'est à ce moment-là que je rentre dans les 100 sur la, je pense que c'est sur la victoire face à Berdych que je dois rentrer dans les 100.
Et tu te souviens ce que tu as ressenti?
Pas grand chose en fait. Cette histoire de rentrer dans les 100, c'est un truc qui m'énerve encore aujourd'hui. Donc, il m'a jamais vraiment. Je trouve que c'est une espèce de. C'est un truc dont on. Voilà, ça fait partie des trucs qu'on nous a mis en tête. Et à un moment, en fait, tu commences à jouer au tennis pour rentrer dans les 100. Et ça n'a aucun sens. Mais aucun. Mais on te dit, c'est une limite. On ne sait pas pourquoi. C'est ça. Après, une fois que tu es dans les 100, tu dis, c'est quoi maintenant 50? Puis 50, c'est quoi? C'est 30. Puis après, c'est 10. Puis. Enfin, mais tu vois, il y a un gros truc sur. Il va rentrer dans les 100. À chaque fois qu'un joueur qui rentre dans les 100, on lui dit, ah, ça y est, t'es rentré dans les 100. Et je veux dire, il serait rentré dans les 110 ou dans les 90. Enfin, dans l'absolu, ça ne change pas grand chose, quoi. Il y a rien qui se passe. 100 qui fait que, waouh, ça y est, je suis dans les 100. Donc, j'avais pas ce truc-là, mais ce symbole-là, il est devenu très fort et beaucoup trop fort, à mon avis, et ça en est même devenu presque un objectif. Un gamin, il veut être numéro un mondial, il veut gagner un grand chelem quand il a 8 ans, 10 ans, 12 ans. Tu vas parler à un enfant, tu lui dis, tu veux rentrer dans les 100, il me dit, dans les 100 de quoi? Je me fiche, je veux gagner un tournoi. Mais t'en as plein à 16 ans, leur objectif, c'est de rentrer dans les 100. Parce qu'on leur a expliqué que s'ils rentraient dans les 100, ils avaient réussi leur carrière, qu'ils allaient vivre du tennis, etc. Et là, tu dis, non, mais là, il y a un gros problème d'objectif. Tu joues pas au tennis pour être dans les 100. Enfin, tu vois, tu joues au tennis pour aller le plus haut possible, quoi. Je veux dire, 100, quoi, pas 200, 50 ou 30. Enfin, tu vois. Et donc, moi, quand je suis rentré dans les 100, j'ai ce truc-là, je me dis, ouais, je suis dans les 100, mais bon, on m'en fout, quoi. On m'en fout complètement.
Donc, si tu devais changer le discours, tu remplacerais par.
Mais vise de gagner un grand chelem et de mais vise que ça. Le but, c'est quand tu joues au tennis, c'est de gagner le plus grand tournoi possible. Tu seras certainement pas capable. Oui, tout le monde peut pas gagner un grand chelem, mais c'est pas un problème. Mais de l'avoir en objectif, ça fera de mal à personne. Tu l'as et puis tu dis, si j'arrive pas, j'essaierai de gagner un Master 1000, et si j'arrive pas, j'essaierai de gagner un 500, et si je peux pas un 250. Mais le but quand tu joues, tu vois, de mettre une limite de classement 100, elle est hyper vague. Les gens savent même pas à quoi ça correspond une saison d'un numéro 100. Tu vois, tu leur dis, okay, pourquoi 100? Qu'est-ce qui fait un numéro 100 dans la saison? C'est quoi ses résultats? T'en as aucune idée. Voilà, il n'y a pas de ce truc. Donc, à un moment, toi, quand tu joues, le minimum que tu veux dans n'importe quel enfant qui joue au tennis, c'est de gagner un tournoi, que ce soit le tournoi de son club, le tournoi du truc. Tu vois, il veut gagner un tournoi. Donc, tu veux gagner des tournois. Le plus gros possible, ça devrait être ça ton objectif.
Tu disais qu'il n'y avait rien de palpable à 100. Alors, ça fait un peu matérialiste, mais tu as une retraite, je crois, après un certain nombre de temps passé dans les 100, c'est ça? Alloué par l'ATP.
C'est après un certain nombre de tournois à jouer quand tu rentres dans un certain nombre de tableaux dans la saison. Mais encore une fois, oui, aujourd'hui, on a dit qu'en gros, il y a une image très forte qui dit que c'est quand tu es dans les 100 premiers que tu commences à vivre du tennis. Donc, tu sais, on te met 100 parce que toi, en fait, en gros, ça veut dire que tu es en investissement permanent. Mais je te rassure, même quand tu es 80, tu es encore en train d'investir hein, parce que l'argent que tu gagnes, tu es obligé de le prendre pour un kiné, pour un machin, pour un entraîneur physique, etc. Donc, on est quand même le sport où on doit investir quasiment le plus. Mais tu te dis, 100, dans l'idée générale, c'est ça y est, 100, j'ai réussi ma vie, entre. Tu vois, j'ai réussi ma vie de joueur de tennis. Je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent et à vivre de mon tennis. Si c'est ça l'objectif, la vache, et j'ai envie de te dire, je ne joue pas au tennis. Tu vois, parce que tu vas être déçu. Ce qui te reste à la fin, il y avait plus facile, quoi.
D'accord. Quel est ton coup le plus naturel dans ton jeu?
Mon revers.
Et la partie du jeu où le coup t'a le plus fait évoluer? Tu dirais que c'est lequel?
La partie du jeu que j'ai le plus fait évoluer, le coup droit.
Ok. Est-ce que tu as eu des déclics majeurs pendant ta carrière? Et si oui, à quel niveau?
Ouais, j'ai eu des déclics. Ça, je pense que c'est un peu lié à notre façon, encore une fois, d'approcher le tennis. On a un système en France où on a un système de classement. Donc, très petit, tu es habitué à ce qu'on t'explique avant un match que ce mec-là, il est moins fort que toi parce qu'il est moins bien classé, qu'après, tu vas jouer un mec sur ton classement ou là, le mec, il est mieux classé. Et tout de suite, le classement prend une importance très importante, certainement trop importante. Et tu te retrouves souvent à expliquer à mon fils quand il joue, tu lui dis, non, mais là, tu joues un petit, il a un courant vert. Si je te dis, il a pas de classement, tu fais quoi? Et t'es perdu. Moi, je me rappelle que un des gros changements quand tu commences à jouer en futur et que tu joues des qualifs de futur, c'est que quand tu joues un Français, il a un classement. Donc toi, quelque part, tout de suite, t'as un repère. Il est ça, il est tac. Quand tu joues un étranger, il a pas de classement. Et là, t'es vachement emmerdé. Tu te dis, putain, ouais, mais il joue combien? Alors, vas-y, donnez-moi. Tu sais, il y a les assimilations. Il est assimilé moins 15, ou il est. Tu dis, non, mais. Parce que toi, dans ta tête, on t'a appris qu'il fallait que tu jouais finalement plus un classement qu'un mec. Et quand t'as pas le classement en face, et que c'est à toi de te faire une idée de son niveau, t'es perturbé. Et donc, ayant grandi avec ce truc-là, le classement ayant été toujours très important pour moi, souvent les déclics que j'ai eus, c'était des déclics de classement. Donc, quand j'arrivais à battre pour la première fois un joueur qui était dans les 100 premiers, moi, dans ma tête, je me disais, je bats un joueur qui est dans les 100 premiers, donc c'est sûr j'arriverai dans les 100. Tu vois, c'était ma manière. J'ai battu un mec 30e, c'est sûr qu'un jour je serai 30e, parce que je suis déjà capable d'en battre, donc je continuerai d'en battre, etc. Et c'était comme ça que j'avançais. Donc, le problème, c'est qu'un jour, tu bats un numéro 1, donc tu bats un 2, tu dis, je vais être numéro 1, puis après, c'était un peu plus compliqué. Mais j'avais toujours ce truc-là en tête, me dire, là, je joue des mecs 300e, j'ai pas l'impression qu'ils jouent beaucoup moins, donc je serai 300e. Après, je vois un mec 150. Ah, c'est ça, 150. Bon, ça va aller, etc.
Alors, de ta présentation, on a parlé du match contre Rafa à Madrid. Si tu devais isoler ton top 3 de tes matchs les plus fous, ce serait lesquels?
Top 3 de mes matchs les plus fous? Alors, Nadal, je ne sais pas si c'était le plus fou, parce que c'était certainement le plus abouti. Donc, quelque part, il y avait un côté de folie aussi, parce que il y a eu quelques points, quelques coups qui sont rentrés parce qu'ils peuvent rentrer que dans cet état de confiance-là et peut-être de folie-là.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et quand je dis fou, c'est
pour
plus
moi,
tes trois plus belles victoires, quoi, tu vois.
Pour moi, les deux victoires, les deux autres seraient certainement les deux victoires contre Federer, qui sont dans deux contextes très différents. La première, en fait, je le joue à Toronto. Je viens de gagner à Indianapolis. Je joue bien, je me sens bien. Et puis, en fait, là, je vais affronter déjà le mythe Federer. Et j'ai un décalage colossal. Je me rappelle de faire un effort dans le match. Moi, avant le match, je pense que je vais gagner, en fait. Avant le match, j'ai l'impression que je joue tellement bien. Tu vois, ces derniers temps, un truc que je me dis, tu vois, c'est rare, hein, parce que moi, j'ai peur souvent. Tu vois, j'ai fait un livre là-dessus, donc j'ai peur. Et c'est un match où j'ai presque pas peur. Je me dis, mais je vois pas de l'arrogance. Super bien du fond, je me sens indébordable. Je cours partout, je frappe bien des deux côtés, je fais pas de faute. Tu vois, j'ai du mal à imaginer qu'un mec puisse m'exploser dans ses comptes. Enfin, tu vois, avec ce que je, pour une fois, je me sens fort. Et je me sens pas souvent fort, mais là, je me sens fort. Et quand j'ai ce feeling-là, j'ai souvent eu raison, tu vois, par rapport à moi-même. Hein. Donc ça, c'est une discussion que j'ai tout seul. Mais je me rappelle de faire l'effort de me dire, tout le monde me dit, c'est Federer, c'est injouable, c'est Federer, c'est injouable, c'est Federer, c'est injouable. Donc, sois prêt à quand même te faire découper. Tu vois, parce que tu le sens pas arriver, mais je le ressens pas, en tout cas. Tu vois, le danger. Je l'intellectualise, mais je le ressens pas du tout. Et en fait, on va commencer le match. Je rentre sur le terrain. Il est à côté. Et en fait, je le trouve beaucoup plus impressionnant Tu sais, à côté que quand tu le vois d'habitude à la télé ou machin, parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas croisé tant que ça, finalement, sur le circuit. Je ne croise même jamais. Ah ouais. Tu vois, à ce moment-là, on est en 2008, je viens d'arriver sur le circuit il y a un an, je ne l'ai jamais vu, quoi, presque. Ouais. Donc là, je le vois, je me dis, putain, mais en fait, il est plus costaud que ce que je crois. Tu vois, il dégage une espèce de puissance et même athlétiquement, tu vois, dégage un truc. Je me dis, oh là là, le mec, il est affûté. Bon, bref. Tu vois, je suis là, je rentre sur le terrain. Gilles Simon, personne ne te connaît, t'as vu, silence de mort. Federer rentre et là, t'as l'impression que, bah voilà, Jésus qui arrive, salut les gars, tac, un bruit. Et tu vois, le mec, il fait ton palmarès, tu viens d'arriver, bon, bah, il a fait une finale à Valence l'année dernière, voilà. Federer, bon, bah là, ok, c'est bon. Donc là, tu te dis, bon, c'est vrai que là, je suis pas favori, quoi. Il y a un truc, tu commences. Et puis, le match commence. Et donc, je commence à stresser. Tu vois, j'ai le stress que j'avais pas, que j'arrive même pas à mettre avant un truc. Putain, tout d'un coup, ça vient. Je me dis, putain, le mec, en fait, c'est vrai, il dégage un truc de fou. Il est là, il y a des gens, il y a du bruit. Tu vois, c'est dur. On commence le match. Il y a 4-0 en 7 minutes. Mais 7 minutes, hein. Je prends ace, couroir, revers, chip. Là, je fais, laisse-moi respirer. Il te saute à la gorge direct. Donc, c'était marrant parce qu'il y avait mes parents qui étaient là et mon père, il m'a dit après le match, il m'a dit, mais franchement, je pensais que tu allais prendre deux bulles en mais 20 minutes au début, tellement c'était arrivé. Il dit, tu sais, il vole. Tu vois, c'est là où on le dit après, tu vois, qu'on a l'impression qu'il vole sur le terrain. Mais là, c'est vraiment ça. Tu as l'impression que le mec vole sur le terrain. Tu vois, ça va vite. Tu joues là, il est déjà en train de faire un coup droit. Tu es à peine remis. Tu as l'impression qu'il est déjà là, tac-tac. Tu fais, voilà. Et en fait, c'est un match où finalement, j'ai réussi à construire quelque chose. J'ai réussi à d'abord trouver mon rythme sur mes jeux de service. Tu vois, à un moment, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je commence à jouer les jeux de service, à commencer le point comme je veux, au moins sur les miens. Sur les siens, je ne touchais pas une balle, et ils jetaient la balle là, elle partait là-bas, un truc, j'y étais jamais. Et puis tout d'un coup, comme j'étais plus serein sur mes jeux de service, je commençais à trouver un peu une solution par-ci, par-là sur le sien. Ouais. Et puis, l'air de rien, comme ça, et ben, je gagne le second. Et puis, on arrive au troisième, je me restresse un peu, et lui, il joue mieux. Bon, il part devant et il a une balle de break, il a une volée facile, tu vois, il l'empale, il y a un ou deux trucs comme ça où il rate une volée facile pour se donner break 4-2 ou 5-2 tac, et puis finalement je l'amène, je tiens mon truc, 5-4, un bon jeu, 6-4, et tu vois, je gagne et je me dis waouh, j'ai gagné. Mais c'est un match qui s'est pas du tout passé comme je l'avais pensé, et donc c'était étonnant. Et quand je le rejoue en fin d'année au Masters, donc là tu l'as battu une fois, j'ai battu Nadal aussi. Mais tu arrives au Masters, tu ne déroules pas une blinde non plus. Quoi. Tu arrives au Masters, ta poule, c'est Roddick, Murray, Federer. Tu fais, waouh, putain, c'est fort. Et tu commences et on te dit, tu fais match d'ouverture contre Roger. Sympa. Ok, bah, c'est parti. Et là, en fait, tu as une logique complètement différente. Parce qu'autant la première fois, tu te dis, bon, bah, tu sais, j'y vais, on va voir. Tu vois, je me sens bien. Et je pense que j'étais dans le bon état d'esprit parce que j'étais entre. Je me sens bien, mais je suis vigilant, mais le mec, etc. Donc, j'avais un peu tout en tête. Le deuxième, tu l'as déjà battu. Donc, c'est certainement parce que j'avais battu que j'ai réussi à le rebattre. Mais d'un autre côté, une fois que tu l'as déjà battu, il y a tout un côté qui est, on va voir ce que ça donne ou truc, que tu peux, tu sais, que tu n'arrives plus à te tenir comme discours. Tu l'as battu lui, tu as battu Novak, tu as battu Rafa. Donc, tu ne peux plus arriver en te disant, bien sûr, tu n'es toujours pas favori. Tu vois, mais tu peux plus te mettre en outsider total, genre on y va et si je prends deux bulles, tout va bien quand même. Ouais, tu vois, ouais. parce que tu vois, ton niveau t'a montré autre chose. Donc t'as un peu moins de déconnexion, tu vois, et un peu moins de détachement aussi. Donc j'ai joué en me disant, ouais, mais là, tu commences même à vouloir te prouver que c'était pas de la chance. Ouais. C'est parce que tout le monde te l'a dit que c'était de la chance. Donc toi, tu dis, bon, j'en ai quand même battu trois, donc trois fois de la chance, ça fait beaucoup. Mais quand même, il y a des moments où toi-même, tu veux te prouver des choses, que c'était pas de la chance. Donc tu le rejoues. Et c'est toujours le même mec, qui est toujours aussi impressionnant, qui te met quand même 6-3 au premier en volant partout, etc. Donc c'est une deuxième très belle victoire parce que le confirmer, faire un exploit, c'est déjà faire un exploit, donc ça n'arrive pas souvent. Et le confirmer, c'est beau quand même.
Du coup, tu t'évoquais la peur contre Roger. C'est un des chapitres de ton livre. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire que finalement, évidemment, un gars comme toi qui a pas loin de 20 ans de carrière déjà, dans 2 ans, ça sera le cas, qui a un nombre de matchs incroyable à son actif, donc beaucoup d'expérience, ressent toujours la peur. Elle se matérialise comment? Et si tu devais nous isoler, le match où tu as eu le plus peur, ça serait lequel?
Elle se matérialise comment? Comme chez tout le monde. Hein. Quand tu as peur, tu as le souffle court, tu as les jambes qui n'avancent pas, tu as l'impression d'avoir de la buée devant les yeux. Voilà, tu as l'impression que ta lucidité n'est pas là, que tu ne vois pas, que tu vois en retard. Enfin, tu as l'impression d'avoir un décalage colossal entre ce que tu voudrais faire et ce que ton corps veut bien faire.
Ouais.
Ça c'est les symptômes de la peur, quoi. Quand t'as peur, t'es paralysé, tout le monde te dit fais quelque chose, mais oui, mais le principe de base c'est quand t'as peur tu ne fais rien, justement tu fais rien parce que t'es un peu figé, cette peur là elle change pas parce que ton objectif quand tu vas sur un terrain de tennis c'est de jouer ton jeu, c'est d'arriver d'abord à mettre ton jeu en place. Et le tennis, c'est un sport où t'es dans une opposition. Donc, t'as en face de toi un adversaire qui a lui aussi un objectif, c'est de mettre son jeu en place, et aussi un objectif, c'est que toi, tu le mettes pas en place. Donc, savoir combien de temps ça va te prendre, tu vois, de ça y est, te sentir parfaitement bien autour, d'arriver à lire son service, de savoir où il joue, d'avoir un temps d'avance, etc., ça prend forcément un peu de temps. Ça prend forcément ce temps-là. Et ce temps-là où tu sais pas, où tu es un peu là, c'est là où ton cœur monte plus vite, tes jambes, etc., où tout est plus dur. Et au bout d'un moment, plus tu rentres dans le match, plus tu commences à sentir ce qui se passe, plus tu commences à connaître les schémas de jeu de ton adversaire, etc., et ben forcément, plus tu te libères. Mais tu peux pas connaître tout ça dès le début. Tu sais pas comment exactement toi tu vas te sentir, si tu vas tout de suite réussir tes coups, si tu vas en rater, si, etc. T'as une pression du score aussi, naturellement, et donc t'essayes d'oublier pour d'abord mettre tes trucs en place, mais voilà. Tu dis, allez, aujourd'hui, je suis bon, hein, je me sens bien, paf, le mec commence, il te met 3 aces, 1-0, à toi de servir. Tu rates une première, tu fais une deuxième, tu prends retour gagnant. Direct, tu dis, oh là là là, attends, vas-y, laisse-moi le temps. C'est ça qui est pas simple. Et donc, cette peur-là, elle est toujours là. Tous les joueurs te disent toujours que le début de match, c'est rare d'arriver. Salut les gars, c'est parti. Aujourd'hui, tout va bien. Non, ça prend toujours un peu de temps.
Le match où tu as eu le plus peur, du coup, tu t'en souviens?
Oui, le match où j'ai eu le plus peur, c'est Roland. C'était Roland de manière générale, mais depuis tout petit. Parce qu'il y a un truc qui te fait très peur, c'est quand tu as envie de bien faire. Et l'envie de bien faire, elle est là chez tout le monde. Et plus c'est important pour toi, parce que tout le monde te dit, c'est Roland, c'est important. C'est surtout pour toi, parce que quand il y a des gens qui m'ont dit ça c'est important, mais toi tu le ressens pas, tu joues détendu. Et tu vois, par exemple, c'est ce que j'avais dans une finale. Les gens me disaient putain, en finale tu joues bien, tu joues ton truc, pourtant c'est un match important. Tu vois, mais moi je le ressens pas comme ça. Tu vois, la finale, elle me stresse pas du tout. Parce que j'ai eu peur déjà tellement avant sur les trucs qu'en finale je sais que je vais bien jouer, je suis beaucoup moins inquiet sur une finale que sur un premier tour. C'est pour moi, tu vois. Et donc, c'est là où on peut me prêter une force mentale, on me dit, ce mec là en finale, il est là. Oui, mais moi, au premier tour, je suis pas là, par contre, parce que c'est juste dans mon cheminement. Mais donc, quand j'ai envie de bien faire, j'ai envie de bien faire en finale, mais moi, j'ai la même envie de bien faire au premier tour. Et comme au premier tour, je n'ai pas les repères, et quand c'est des tournois qui sont encore plus importants pour moi, genre Roland, t'as envie de bien jouer et tout, putain, au début, tu commences, le mec, il te fait une amortie au deuxième point du match, t'es à ça de la tachycardie, quoi, tu vois, alors que tu t'es entraîné, tu vois, mais là, donc, voilà, c'est comme ça. Roland, c'était le plus dur.
Est-ce que tu te souviens du plus gros frisson que tu as vécu sur un court en termes d'ambiance?
Pas simple. Contre Milos Raonic, un match que je perds en 5-7, et il y a un moment où je le débreak au 5e, quand je crois qu'il sert pour le match à 5-4 au 5e, et je le débreak, et là, on était vraiment en fin de journée, il faisait quasiment nuit, etc. Et là, il y a eu une belle ovation parce que je pense que c'était un beau match et tout. Donc celui-là, je l'avais bien aimé. Après, il y a des ambiances parfois que j'ai adorées, qui étaient très particulières. Et c'était même pas moi qui jouais, mais j'étais dans le stade. Je pense à des matchs parfois même anodins. Je pense à Gaël qui joue contre Dutra Silva, un Brésilien au Brésil, au jeu à Rio, et qui commence à se chauffer avec tout le monde, avec le public et tout. Et les mecs commencent à lui hurler dessus, et lui, il les regarde comme ça, tu vois, il les provoque en plus, il est là, tac, il met un ace, il les regarde, les mecs hurlent, il les regarde encore, il remet un ace, il les regarde, et tu te dis, t'as, c'est en train de monter en, en pression. Il y a eu deux, trois ambiances, et donc forcément, après, en Coupe Davis, deux, trois atmosphères qui étaient particulières.
Et contre Raonic, c'était où, ça a coupé, j'ai pas entendu?
C'était à Roland sur le central, et pourtant c'est pas toujours le central où j'ai les meilleurs souvenirs, notamment d'ambiance, mais sur ce match là c'était grandiose. J'en ai 2-3 sur le central quand même, un match contre Fiche où ça s'était très bien passé aussi, ouais. Et donc voilà, mais ouais, non, il y en a eu des bonnes, il y en a eu des bien sur le court 1, j'aime beaucoup le court 2 de Roland, sur le court 2 de Roland on en a eu des fabuleuses, parce qu'on a les gens, ils sont là, ils sont très proches, ils sont un peu, et c'était top.
Quelle a été ta plus grosse déprime après une défaite ?
Ma plus grosse déprime après une défaite, je pense que ça doit être après ma défaite contre Paolo Lorenzi, je ne sais plus en quelle année, à l'US Open. Et après, il y en a eu une autre, peut-être encore plus grosse, c'était contre Dzumour à Winston-Salem, où là, j'ai envie d'arrêter, en fait.
Wow.
Mais ouais, c'est 2-3 fois où ça se passe moins bien.
Et dans ces cas-là, c'est quoi ta manière de te remettre dans le droit chemin, de reprendre goût ?
Bah, ça a été assez violent après le match contre Dzumour, puisque c'est le moment où j'ai décidé de me séparer de tout le monde. Je travaillais avec Yann Devitre dans l'affaire, Miloš Jelisavčić, mon préparateur physique, les kinés, et je trouvais qu'ils faisaient tous un travail fantastique. J'étais une machine de guerre à l'entraînement, je jouais bien, physiquement j'avais mal nulle part et tout. Mais en match, il restait à peu près 10% de ce que j'étais capable de faire. Je me mettais dans des états, j'arrivais plus à jouer, j'arrivais même plus à lancer ma balle au service. Je crois que j'avais repris 50 fois ma balle en lancer de balle contre Dzumour. Et je leur ai dit, bah écoutez, à un moment j'en ai marre d'être une Formule 1 à l'entraînement et même pas être capable de lancer une balle au-dessus de ma tête en match. Donc là, j'ai besoin d'être vraiment tout seul, de régler ça tout seul, soit je le règle. Et je continuerai, soit je le règle pas et je m'arrête parce que c'était trop dur en fait. Et donc j'avais fait la suite et ensuite j'ai voyagé tout seul pendant plus d'une saison.
Et ça t'a permis de te retrouver progressivement, d'être tout seul, de moins avoir le regard extérieur. Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé finalement ?
Peu importe, je sais que je pourrais pas l'expliquer moi-même, mais il se trouve que souvent quand ça va pas, seul je fais mieux. C'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma carrière, et puis pour autant mon jeu se dégrade, tout le reste dégrade, ma préparation physique, mon niveau physique était plus au niveau, etc. Mais à un moment je me disais, vaut mieux être moins en forme physiquement et tennistiquement, mais qu'au moins il reste quelque chose en match, plutôt que d'être là à avoir l'impression de battre les mecs. J'avais fait une semaine à Winston-Salem, je crois que si j'avais perdu deux jeux dans un set d'entraînement, c'était un maximum, tous les joueurs qui étaient présents, j'arrivais en match et je pouvais plus jouer du tout. Donc là je me suis dit, ouais, là c'est autre chose. C'est vraiment que dans ma tête, donc c'est à moi de le régler, et puis voilà.
Yes. Il me semble que tu joues beaucoup aux cartes en dehors des matchs. À quel jeu t'es le meilleur ?
On jouait beaucoup, mais moi, le jeu que je préférais, c'était le tarot. Mais il n'y a plus grand monde qui joue au tarot de nos jours. On préfère tout ça belote, alors on fait des belotes.
D'accord. Retraite internationale du tarot. Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Djoko en dehors du cours ? Une anecdote sympa qui nous montre un peu que c'est des mecs plutôt cool et que tu pourrais nous raconter.
C'est tout est dans le que tu pourrais nous raconter. c'était marrant. Rafa, là, il m'a fait sourire parce que Rafa, c'est un des quand j'ai eu mon fils Timothée, il avait fait une photo avec lui il y a très longtemps. Ouais. Et puis pour X raison, après ma famille a moins suivi en tournoi, les enfants étaient plus grands, ils allaient, ma femme était fatiguée d'amener aussi tout le monde tout le temps, toutes les semaines. Mais il se trouve que l'année dernière, tournée US de l'année dernière, tout le monde est venu avec moi à nouveau, parce que c'était les grandes vacances, voilà, j'avais prévu de faire une longue tournée aux États-Unis, donc on est venu avec tout le monde. Et je recroise Rafa. Vas-y, fais une photo avec lui. Rafa direct, il s'est rappelé, il dit, ah toi, j'avais fait une photo avec toi, je t'avais dans mes bras quand t'avais 6 mois, alors qu'il a 10 ans.
Excellent.
Il s'en était rappelé, ça m'avait fait marrer.
Incroyable.
Et j'en parle dans mon livre pour l'anecdote avec Roger et justement mon fils, puisqu'il était là, quand il m'expliquait qu'à balle que finalement, tu sais, il aime beaucoup beaucoup Roger et que et que je dis, tu vas être pour moi, et qu'il me dit, bah, tu sais, papa, j'aime beaucoup, beaucoup Roger. Donc, c'était marrant. Donc, on était allé le voir pareil dans sa loge. Et je lui dis, Rod, je veux bien faire une photo avec lui. Il me dit, bah, évidemment. Je lui dis, de toute façon, tu n'as pas le choix parce qu'il est pour toi. Donc, si tu ne fais pas une photo avec lui, alors qu'il est pour toi. Et donc, ça l'avait fait. Marrant. Et Novak, ouais, Novak, j'en avais beaucoup, j'en avais différentes. Il y en avait une où il m'emmerdait parce qu'à chaque fois, un jour, je lui avais demandé une paire de chaussettes sur le terrain parce que j'en avais plus et qu'il ne me lâchait pas avec ça tous les jours. Mais c'est vrai que Novak, après, je l'ai croisé plus même en dehors du cours que les deux autres pour d'autres choses aussi, pour d'autres sujets qu'on avait à cœur quand on était au Players Council, quand on discutait, etc. Mais une dernière fois, juste, on était dans une discussion dans le Players Council, et puis Novak, il a le même mode de fonctionnement que sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est là, il va avoir le sourire, il va être classe élégant, et puis tout d'un coup il switch de mode, il passe dans un mode, tu vois, où il veut gagner, quoi. Tu vois, il a une espèce de détermination dans le regard. Moi, c'est ce que j'admire le plus chez lui, où quand il a cette tête-là, tu te dis, ah là, ça va commencer à être compliqué. Et moi, j'ai ça souvent quand je le joue sur le terrain. Au début, j'arrive à l'amener dans des trucs, il rate, il fait son sourire un peu comme ça. Je devrais pas le rater, mais je le rate, etc. Et puis tout d'un coup, t'as l'impression qu'il y a un masque qui fait, bon, allez, là, j'en ai marre. Et moi, quand je le vois faire ça, je sais que là, ça va être beaucoup compliqué. Ça va se compliquer énormément. Ouais. Et tant que je le vois rater son courroie et ferme, bah, j'aurais pas dû rater tout. Je sais que, bon, bah, vas-y, continue. Et il a ce même fonctionnement-là en dehors. Et on avait des discussions, il était ouvert. Et les gars, vous pensez ci, et vous pensez ça, etc. Et puis tout d'un coup, c'est une discussion qui est importante pour lui. Et il switch de mode comme ça. Et là, moi, je le provoque un peu parce qu'on s'était joué à l'Australian Open. Et franchement, à l'Australian Open, je pense qu'il m'avait insulté en serve. Mais vraiment insulté. Quand on avait fait ces 5-7-là. Et là, je le regarde, je lui dis, ah, Novak, j'adore quand je te vois comme ça. Je lui dis, là, tu vas commencer à m'insulter en serve. Et là, il me regarde comme ça. Et il me dit, mais putain, tu veux pas faire une faute aussi, tu saoules. Tu vois, parce qu'il se rappelle lui-même alors qu'on parle de complètement autre chose. Mais moi, je le ramène sur ce truc-là, et il se dit, ouais, bon, j'ai dû t'insulter, mais tu m'emmerdes aussi, etc. Et ça m'avait fait marrer. Donc, ouais, il est très conscient de tout ce qui se passe.
J'étais dans les tribunes à l'Australian quand vous avez fait 5-7. J'étais à côté de Planck, Emmanuel Planck. Putain, mais j'aurais tellement aimé que tu le cires, Gilles. J'aurais tellement kiffé. Ah oh là là. Moi, bon, je pense pas autant que toi, hein, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Tu parles du mythe.
J'ai fait le mince.
Ouais. Tu parles du mythe Federer dans ton livre. Pour toi, qui est le GOAT entre les trois?
C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a toujours dit, pour X raisons, alors bah, c'est pareil, j'ai été éduqué comme ça dans le monde du tennis, à dire que le GOAT, c'est celui qui avait le plus de tournois du Grand Chelem. Voilà. C'est ce qui se passe chez les femmes. On continue de te parler du record de Margaret Court parce qu'elle a le record de Grand Chelem. Donc, dans la logique, ça sera celui qui en aura le plus. Dans les faits, comme il y en a beaucoup, ce que j'explique effectivement dans le livre, qui aimerait que ce soit de toute façon Roger, parce que Roger, ayant dégagé sur le terrain un style de jeu, une classe et une élégance unique, tout le monde voudrait que ce soit lui. Alors, est-ce que ça serait lui, même s'il n'a pas le record de Grand Chelem? Est-ce que c'est incompatible? Je ne sais pas. Ça sera un débat qui sera intéressant à avoir, parce que dans tous les cas, pour moi, de toute façon, ces trois joueurs-là sont les trois plus grands, mais de tous les temps, qui jouent en même temps. Donc, on est dans quelque chose de vraiment, vraiment hallucinant, tu vois, à la base. Et ils sont tellement différents dans leur personnalité, leur style de jeu, etc., qu'il y aura d'un côté celui qui a le record, mais ça sera presque marrant qu'ils soient à 20 tous les trois, tu vois. Mmh. Et bon, ben voilà. Et puis après, on verra que, bah oui, bah, il y en a, ils préféraient l'élégance de Roger, et puis il y en a, ils préféraient la détermination de Novak, et il y en a, ils préféraient le personnage de Rafa, l'humilité, le truc, etc. Donc, tu te dis, bon, à l'énergie. Tu te dis, voilà, tu peux tous les aimer pour des raisons différentes. En tennis et en élégance pure de joueur de tennis sur le terrain, Roger étant forcément au-dessus des autres. Mais...
Donc toi, si ton cœur devait parler, ce serait Roger ou ce serait un autre?
Non, parce qu'après, moi, si mon cœur devait parler, mon joueur préféré, c'est Nadal. Okay. Pour moi, je pense que le plus fort, c'est Djokovic. Je pense que c'est lui qui les aura. Mais bon, là, personne ne peut toujours prédire l'avenir. Mais je pense que c'est celui qui est le plus fort. Celui qui fera le plus rêver en termes de tennis, et même moi, ce sera Roger, parce qu'on n'aura jamais vu quelqu'un allier élégance, efficacité, etc. À ce niveau-là. Donc, et c'est pour ça qu'il aurait été le joueur préféré de mais Intersport et même personnalité différente. Mais de cœur, c'est Nadal. Parce que je trouve que Nadal, moi, dans sa logique, dans son approche tennistique, dans cette manière de vouloir simplement progresser, souvent, les trois vont dire, ben, moi, je serais content avec, peu importe si j'ai le record, je serais content avec mes titres. Le seul que je crois vraiment, vraiment à 100% quand il dit ça, c'est Nadal. Tu vois, j'ai l'impression que Roger, il voudrait vraiment avoir le record, que Novak, il est bien sûr qu'ils seront contents avec 20 grands chelems, 17 grands chelems, il n'y a pas de truc. Mais tu vois, ils ont ce truc-là. Alors que Nadal, tu le sens depuis toujours que, non, mais moi, je suis content avec mes titres. Tu vois, j'essaie pas de lutter contre la personnalité, l'aura de Roger, etc. Je suis là, je fais mon truc. Et il a gagné un respect chez les fans de tennis et même en dehors, tu vois, année après année, dans la constance de son comportement, tu vois, dans l'adéquation de son discours, de son attitude, etc., etc.
Ouais.
Et donc, moi, je trouve que c'est formidable de manière générale. Et c'est pour ça, alors que en termes de jeu, c'est pas son coup droit ou son revers, mais c'est vraiment dans le personnage, son attitude et son état d'esprit que je préfère aux deux autres.
Quelle est ta façon à toi de préparer les matchs?
Bah, j'essaie de me concentrer sur ce que je vais devoir faire. J'essaie de chasser tout ce qui peut me détourner de ce truc-là. Je sais qu'on a toujours une vision très claire de ce qu'on veut faire sur un terrain avant un match, de où on a envie d'aller. Et je sais que ça se complique à la seconde où on met les pieds sur le terrain. Enseignement du match contre Roger il y a 15 ans où tu avais une idée très claire et tout d'un coup, clac, en 5 minutes, il se passe autre chose. Et donc cet effet-là, bon, qui était exacerbé en jouant un joueur comme Roger évidemment, mais c'est, cet effet-là, il est tout le temps là. Il y a le plan de base, ce que tu vois avant, il y a ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place, et il y a ce que tu vas sentir ensuite sur le terrain, le score qui te demande, etc., et qui te détourne de ce truc-là.
Moi, ce qui me frappe chez toi, c'est que on peut te voir frapper des coups gagnants, prendre la balle tôt, percuter et faire le marathonien comme tu l'as fait plus de 13 fois en plus de 4 heures de jeu en Grand Chelem. Est-ce que ça a été une lutte permanente pendant ta carrière de jongler mentalement entre jeu vers l'avant, contreur, faire la faute ou au contraire aller provoquer le coup gagnant? Enfin, comment t'as la sensation d'avoir géré ces aspects-là?
Bah, très mal, justement. Et c'était, si j'avais un regret sur le terrain, ça a été celui-là, parce que je pense que c'était le but de ce livre. C'était de se dire, bah voilà, j'avais ce décalage. Et après, en discutant avec les autres, je me suis rendu compte qu'ils l'avaient aussi et que c'était un peu malgré nous. J'avais ce décalage parce que quand tu es sur un terrain, encore une fois, tu peux réfléchir à ton jeu en dehors, te dire, bah, moi, j'ai quoi? J'ai un bon timing, je bouge bien, je couvre bien le terrain en droite à gauche. J'ai pas forcément de variation énorme de trajectoire, à savoir en lift, en chip, etc. Mais par contre, j'arrive à faire des variations de vitesse, tu vois, entre des balles très lentes, des balles moyennes rapides ou des grands coups de fusil à plat qui vont très très vite. Donc, ça sera plutôt ça ma variation. Donc, il faut que j'utilise pour créer du stress, etc. Donc, tu as une idée de ton jeu. Tu le mets en place à l'entraînement, et à l'entraînement, quand tout va bien, bah forcément, tu sais, tu passes très facilement de base de cadence à j'envoie un missile à plat tout d'un coup, tu sais, qui laisse le mec sur place, et tu dis, c'est génial. Et puis, tu arrives en match, et puis, bah, bizarrement, le missile, tu le sens moins. tu le sens moins. Et puis, tu es énervé, en fait. Tu es énervé parce que tu dis, mais attends, mais j'y arrive tous les jours à l'entraînement, donc je sais le faire. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de le faire, qui s'appelle tout simplement, encore une fois, la peur. Et quelque chose qui t'empêche de le faire. Et au lieu de se poser, pour moi, cette question, c'est ce que j'encourage à faire dans le livre, à chercher pour chaque joueur, qu'est-ce que je sais faire, tu vois, dans les moments importants, qu'est-ce qui tient dans mon jeu, etc., etc. Moi, j'étais dans la logique, dans une autre logique qu'on m'avait un peu imposée, c'était à savoir, tu sais le faire, il faut que tu le fasses en match. Et en gros, il faut que tu n'aies pas peur. Tu vois, il faut que tu sois fort mentalement et que tu n'aies pas peur. Et donc, ce que ça a créé chez moi, c'est un décalage entre d'un côté, je me sens bon, etc. Parce que tu vois, je gagne des matchs, je sais faire des trucs à l'entraînement. Mais d'un autre côté, je me sens hyper faible dans ma tête parce que je ne suis pas du tout capable de jouer en match ce que je joue à l'entraînement. Il y a un écart colossal, il y a tout un tas de coups que je n'ose pas laisser partir. Je devrais. Et que finalement, ce que tu fais sur le terrain, tu as l'impression que tu le fais par défaut. Tu vois, moi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas une bonne estime de toi. Moi, je suis sur le terrain, je finis le match, je me dis, merde, aujourd'hui, je n'ai pas été capable de balancer mes grandes piques à plat, comme ça, là, mes grands changements de rythme. Et aujourd'hui, j'avais peur, j'ai pas osé, j'ai peur, je suis un mouilleur, j'ai pas osé, etc. Et j'ai grandi avec ce truc-là. Ce truc. Et donc après, je retournais à l'entraînement et je me disais, mais vas-y, allez, tu vas les frapper. Tu vois, tu les frappes, t'en rates pas une. Et tu retournes en match. Et là, c'est encore pire puisque tu n'y arrives toujours pas. Et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'à l'entraînement, tu y arrives. Et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'en match, tu n'y arrives pas. Et tu grandis avec ce décalage constant. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors que si tout simplement, c'est de mon point de vue, déjà, on me l'avait expliqué que c'est tout simplement normal. Qu'il y a un moment où tu vas avoir des choses qui tiennent en match, des choses qui ne tiennent pas en match, et que tes accélérations, tu vas les mettre à un moment, mais quand tu es en confiance, etc., mais qu'elle ne va pas tomber du ciel. Il faudra la construire, que tu vas commencer en faisant ce que tu sais faire au plus profond de toi, de ce qui tient dans ton jeu, et que tu vas commencer avec ça, et que tu vas construire là-dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi un joueur comme Nadal, c'est que la construction, on la voit. Tu le vois commencer, il ne joue pas en finale comme au premier tour, il ne joue pas en fin de match comme les premiers jeux du match. Tu vois une vraie construction dans son jeu où il fait de plus en plus de choses au fur et à mesure que. Et moi j'ai un peu ce profil-là. Je ne suis pas le profil de Roger qui commence et qui dans l'entrée clac 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 tout va bien. Est-ce que pour autant à cause de ça je suis faible mentalement, je peux pas gagner, etc. Tu vois, c'est ça que j'aurais pu dire. J'aurais pu essayer de me dire plus tôt. Mais non, mais regarde Rafa, il construit. Et moi je ferais partie des joueurs qui construisent. C'est-à-dire que oui, je peux l'envoyer, oui, je peux la prendre tôt, oui, je peux même, si tu veux, monter au fil, etc. Quand tu es en confiance, tu peux tout faire de toute façon. Par contre, qu'est-ce que je vais faire là en début de match quand j'ai peur, tu vois, quand je suis pas bon là, ce qui fait que j'étais pas bon dans ces moments-là, c'est cette espèce de décalage entre ce que je pensais devoir faire, la vision que j'avais de moi-même, même quand tu vois, j'avais battu Rafa ou Roger, etc.
Ouais.
Tu te dis, j'ai été capable de jouer ce tennis-là, mais de pas avoir compris que je l'ai joué parce que j'étais en confiance. C'est que je suis en confiance comme ça par miracle. Il y avait eu des choses avant. J'avais gagné Indianapolis avant avec des matchs pas forcément glorieux. Tu l'as dit dans la présentation avant de battre Nadal. Je bats Andreev en sauvant 5 balles de match. Je bats Ginepri en sauvant des balles de match. Et les matchs, ils étaient pas franchement ouf, tu vois. Mais dans notre cerveau, on oublie ce truc-là. Et tu te rappelles que quand tu as battu Rafa, tu as joué comme ça. Et que c'est comme ça que je dois jouer sur le terrain. Et tu pars avec cette idée forte en tête. En disant, moi, je vais mettre mon niveau de tennis, il va être là, sauf que ton niveau mental, il est là, à ce moment-là, dans ta confiance, et que le décalage entre les deux fait que tu vas nulle part, enfin, dans le mur.
Merci, prof. pour terminer, même si j'aurais besoin d'encore une bonne heure, et du coup, je suis très frustré, Gilles, je tiens à te le dire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour peut-être. Éventuellement, encourager les gens à découvrir ton livre. Quel message tu as voulu faire passer, même si tu nous l'as dit un petit peu entre les lignes. Est-ce que tu as pris du plaisir pour l'écrire? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, du coup?
Oui, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, déjà parce qu'on l'a écrit avec Grégory Schneider et que c'était une super collaboration parce que c'est un mec génial. C'est un mec hyper humble. Il ne voulait même pas avoir son nom écrit sur le livre parce que ça correspond complètement à sa personnalité. Il était tellement heureux de le faire. Il était très protecteur aussi. Il dit, oh, t'es sûr que tu veux dire ça? Parce que là, ils vont... Mais donc, bref, c'était fabuleux. J'adore sa manière d'écrire. Elle me correspond bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais c'est vrai, on a vraiment l'impression de t'entendre parler. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Donc, ça veut dire qu'avec Grégory, on a vraiment ce truc où ça se transcrit bien directement, c'est très vivant et donc nos séances à discuter pendant des après-midi avec lui qui note, parce qu'il note T'imagines tout ce que je t'ai dit, lui, il a noté, il a 150 cahiers, il a une fracture du poignet, il est il a noté tout. Donc c'était, donc bref, c'était génial. Donc j'ai pris du plaisir à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. La plupart des choses que j'ai écrites étaient encore vraies maintenant, enfin avant, etc. Donc je voyais pas vraiment de raison que ça change, mais voilà. Et donc l'idée du bouquin, c'était simplement d'essayer de faire entendre une autre musique que le discours habituel. Quelles sont les raisons, de mon point de vue, qui font que les joueurs français n'arrivent pas à aller au bout du grand chelem, etc. Il y a une construction que j'ai fait en plusieurs. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre dans l'ordre. Donc je mets beaucoup de temps à déconstruire notre idée du tennis. Pour expliquer l'absurde de vouloir jouer un tennis incroyablement offensif, incroyablement conquérant, alors qu'on n'a pas justement, comme je te l'expliquais, déjà le niveau de confiance de base pour le faire, qu'on va forcément avoir peur. Tu vois, la peur intervient tard, elle intervient 8e chapitre, je crois, du livre, parce que je mets 7 chapitres à expliquer comment notre idée du jeu, à prendre tous les paramètres en compte qui alimentent notre idée du jeu, du tennis ultime, du beau jeu à la française, etc., etc. Ce truc-là dont il faudrait absolument sortir pour pouvoir encourager tous nos jeunes en leur expliquant qu'il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, qu'il n'y a pas de mental de loser définitif, qu'il n'y a pas le fameux mental à la française, les joueurs français n'ont pas de mental, que les joueurs français ne travaillent pas, que, etc. Tous ces clichés-là, toutes ces fausses raisons qu'on avance quand on parle du manque de résultats, pour moi, voilà, j'ai voulu donner mon avis à travers ce livre et à travers cette réflexion.
Dernière question, sans forcément avoir besoin d'y répondre. Est-ce qu'il y a une question, la question que tu as toujours rêvé que les médias te posent et qui n'est encore jamais venue ?
Non, pas vraiment. Je crois pas.
Eh ben merde.
J'en ai pas une en tête comme ça, en tout cas.
Bon, tant mieux. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, Gilles ?
Non, juste un grand merci pour le temps et pour l'échange.
Trop bien.
Et merci à tous ceux qui nous écouteront.
Si on venait à être confinés, Gilles, et qu'on avait tous un peu de temps devant nous, est-ce que tu accepterais qu'on fasse éventuellement une deuxième partie ?
Pourquoi pas, peut-être un peu plus tard, par contre.
Okay.
Parce que là, je vais repasser sur les deux tournois qui me restent et je vais regarder, donc peut-être plutôt sur la. Mais pourquoi pas ?
Ouais. À quel moment
et puis, peut-être que le livre sortant, le livre sortant là, tu vois, là c'est une phase aussi de promotion, etc. Donc on parle encore très peu. Après, peut-être que des gens l'auront lu, plein de gens ne seront pas d'accord, plein de gens vont répondre. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi un espace de débat à un moment. Donc peut-être à ce moment-là, ça sera intéressant de refaire.
Ok, cool.
Quelque chose comme fin novembre ou un truc comme ça.
Ok, super.
Tu appelles Olivia. De toute façon.
Très bien.
Tu appelles Olivia, elle dit non. De base, elle dit non.
Elle a pour ordre de dire non.
C'est son ordre numéro un, tu dis non. Et après, elle discute.
Bon, merci Gilles. Ciao, prends soin de toi.
Ok, parfait, ça marche.
Si tu joues,
merci beaucoup.
Bon, merci. Hein.
Merci. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Gilou jusqu'au bout. Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Et si tu l'as déjà envoyé à deux amis la semaine dernière, eh ben t'en trouves deux autres. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font tous rêver. Merci à Olivier et à toi, jeune inconnu, pour vos adorables témoignages, c'est un moteur pour nous de vous lire chaque semaine. On a lancé la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast, sur laquelle on poste de courts passages pour donner envie de découvrir l'intégralité des épisodes. Fonce t'abonner, ça peut tout simplement devenir ta dose quotidienne d'anecdotes du circuit pro. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Un petit peu plus, même maintenant avec la nouvelle chaîne YouTube. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine, à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin, pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur la boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Profitez bien de Bercy, même si les gardiens sont un peu tristounés. On a quand même la chance de voir du jeu en attendant des jours meilleurs. Prenez soin de vous et belle semaine à tous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.